Bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé ma prédication « Le partage, c'est quoi ?» Je ne vous pose pas vraiment la question, ça va être un peu difficile de tout gérer sinon. Mais je l'ai posé à mes collègues. Et puis, la première chose qui est sortie, il y en a un qui m'a dit « Le partage, c'est ça. » Je crois que tous les parents et les grands-parents se reconnaissent, plus ou moins bien. Effectivement, on a tous vécu, je crois, le même objet qui intéresse deux enfants en même temps, voire trois, voire quatre. Et puis, on se rend compte à ce moment-là que le partage, ce n'est pas quelque chose d'inné ni d'acquis. C'est plutôt quelque chose qui doit s'apprendre. Ça ne vient pas comme ça en claquant les doigts. Puis alors du coup, j'ai fait une petite recherche sur Google. Alors, comme il y a des algorithmes, peut-être que je m'étais déjà posé la question une fois, mais je suis tombé sur ça. Première page, apprendre à partager, comment faire. Deuxième page qui m'était proposée, éduquer différemment. Ensuite, partager sa chambre, bonne ou mauvaise idée. Et quatrième suggestion, dans mes trucs à moi, vous regarderez chez vous ce que ça donne. L'enfant qui refuse de partager. Voilà. On voit bien que ces recherches Google ne sont pas complètement à côté de la plaque, qu'elles rejoignent aussi notre intuition, certains souvenirs, ou peut-être la réalité dans laquelle on est englué tous les jours avec cette difficulté de partager. Ça nous donne un peu des souvenirs plus ou moins agréables. Des fois, on a des grands moments de solitude, comme par an, on se dit « Tu donnes cet objet à ton frère ou à ta sœur devant des invités, par exemple. » On joue notre autorité là-dessus, et puis ça se passe plus ou moins bien. Et puis, plus on demande, plus ça monte en épingle. Bon, comme ça ne vous est jamais arrivé, c'est surtout pour moi que je prends les choses. Hein. Le partage, c'est tout un art. Et la Bible en dit pas mal sur le partage. Et il y a Anne-Sophie qui m'a, en préparant ce culte, qui m'a donné cette idée, un peu une intuition comme ça. Moi, je trouve que ce serait bien pour un culte d'offrande spéciale d'entamer une réflexion sur le partage avec au centre la Sainte Cène. Comment est-ce qu'on peut lier les deux choses ? Puis je dis, mais t'as réfléchi à la question ? Je lui dis, non, pas du tout, mais je trouve que l'idée, elle est bien. Alors, j'ai compris que c'était une forme de délégation, que c'était moi qui devais... mais je l'ai fait avec plaisir, parce que je t'ai félicité pour l'idée, donc je le fais avec plaisir. J'ai trouvé que c'était une excellente intuition. Et c'est ce qu'on va essayer de vivre ce matin, de voir comment est-ce qu'un moment clé de notre vie de foi, et particulièrement de notre vie communautaire, peut s'insérer dans notre méditation sur le partage aussi des biens matériels. Et j'ai été surpris, en écoutant le texte biblique, et puis on va l'écouter ensemble ce matin, à quel point il y a des liens évidents entre le partage des richesses matérielles et le partage du pain et du vin de la Sainte Cène. Vous êtes prêts ? On y va ? On plonge dans l'Écriture, dans un texte qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est un peu le récit de ce qui se passe pour les premiers chrétiens, la première église. Comme nous, nous sommes une église, on n'est pas les premiers sur terre à être une église. Il y en a d'autres qui nous ont précédés. Et ces premiers chrétiens, on lit le récit dans un livre qui s'appelle « Les Actes des Apôtres ». C'est le cinquième livre du Nouveau Testament. Et là, on est au tout début, la Pentecôte vient d'arriver, c'est-à-dire que le déversement de l'Esprit s'est fait sur les croyantes et des croyants. Et puis, c'est en gros les premiers éléments qui se passent dans leur vie communautaire. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint produit de manière concrète dans la vie de la communauté? Alors voilà ce qui se passe. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres, ou bien du pasteur. Non, ça c'est pas vrai. Les apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Et puis là, ça précise. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple, ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent la nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Premier texte, et chaque fois qu'on nous parle du partage du pain, c'est vraiment une allusion tant au repas qu'on peut faire et puis s'inviter les uns les autres pour partager la nourriture, tant le repas du Seigneur qui a été institué, qui était le signe de ralliement des premiers chrétiens. Et là, évidence entre le partage des biens matériels et le partage du pain et du vin. Et un autre enseignement capital pour la Sainte-Seine se trouve dans une lettre qu'un autre apôtre écrit, un autre apôtre qui s'appelle Paul. Il a écrit à beaucoup, beaucoup d'églises, parce qu'il en a fondé beaucoup autour du bassin méditerranéen. Et puis là, il écrit une lettre adressée à une église qui se trouve à Corinthe. C'est en Grèce actuelle, il y a un très beau canal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu une fois en photo, c'est impressionnant ce canal-là. C'est cette ville qui est là. Et puis là, il leur écrit cette lettre dans les années 50-60 de notre ère. Et puis vous verrez que l'effervescence un peu de ces premiers chrétiens, puis une forme d'idéal, elle a déjà un peu du plomb dans l'aile, et puis il y a un peu plus de tension pour vraiment mettre en pratique ce que ça signifie être une communauté chrétienne. Alors, on y va, c'est un peu moins gai, mais on va quand même y aller, puisque c'est la réalité. Puisque je suis en train de faire des remarques, je n'ai pas à vous féliciter. Vos réunions font plus de mal que de bien. Voilà, bim, c'est envoyé. Tout d'abord, et ensuite il développe pourquoi. Quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous. On me l'a dit et je crois que c'est vrai en partie. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous, ainsi on peut voir clairement ceux qui parmi vous sont vraiment fidèles. Donc, quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger et pour boire? Ou bien est-ce que vous vous moquez de l'Église de Dieu? Est-ce que vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Est-ce que je vais vous féliciter? Non, sur ce point, je ne vous félicite pas. Et là, on a l'enseignement que peut-être on connaît depuis des années. Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain. Et il a dit, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. » En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacune et chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange et boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. Ensuite, je zappe trois versets qui sont trop compliqués à vous expliquer ce matin, mais j'arrive sur le 33. « Alors, mes frères et sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, il doit manger chez lui. Ainsi, quand vous vous réunirez, Dieu ne vous jugera pas. Pour les autres questions, je les réglerai quand je reviendrai. » Il y a quand même un peu d'humour, hein, Paul. Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux textes-là? Première chose, c'est que, comme je l'ai dit dans Acte 2, il y a une forme d'euphorie, d'effervescence. On est au début, l'Esprit Saint vient de tomber sur les apôtres, et puis il y a une forme de radicalité qui nous impressionne. Je ne sais pas si vous avez bien lu le texte. Ils partagent tout et, application pratique, ils vendent leurs propriétés et leurs biens matériels pour donner tout cela aux apôtres qui ensuite répartissent en fonction des besoins de chacun. J'entends tout de suite dans nos têtes, c'est pas possible. Enfin, c'est pas raisonnable, c'est pas un enseignement pour nous. On va pas le réappliquer à la lettre. Je nous laisse quand même l'interpellation parce que c'est un fruit de l'esprit qui agit directement sur la vie pratique et concrète de tous les croyants. On peut assez vite le mettre de côté parce qu'il est dérangeant. Je nous propose de le laisser bien en place. Je dis pas qu'il faut faire ça. Je dis simplement, gardons au minimum l'interpellation et cette action de l'Esprit Saint qui est là sur la première communauté chrétienne. Et j'aime bien le deuxième texte dans Corinthiens où on se rend compte que, comme pour les enfants qui doivent prêter leur trottinette à leur frère ou à leur sœur, les tensions arrivent assez vite et mettent à mal l'unité même de la communauté chrétienne. Très intéressant de voir que dans les Corinthiens, ils se tapent aussi dessus sur d'autres sujets, mais le sujet principal que Paul met en évidence à par rapport à la Sainte Cène, c'est des divergences au niveau du partage des biens matériels. Certains vivent dans l'opulence pendant que d'autres n'ont pas assez à manger. Et pourtant, spirituellement, ils partagent tous le même repas dans un vernis d'unité. Et ce vernis d'unité, Paul le dénonce, le met en lumière et ne le veut pas. Puisqu'il le dit de manière assez claire, vous ne vous réunissez pas pour louer le Seigneur, vous êtes mieux sans réunion qu'avec des réunions de ce type-là. Mieux vaut ne rien faire que de faire votre catastrophe impressionnante que vous êtes en train de vivre là. Et le motif de la catastrophe, ce sont les inégalités matérielles. Certains ont à manger, d'autres n'ont pas à manger. C'est assez simple, hein? Donc là, on voit vraiment que pour le repas du Seigneur, il n'y a pas qu'une dimension spirituelle, qu'on met souvent en avant et à juste titre, il y a une claire dimension horizontale et communautaire, qu'il y a un lien entre des formes d'inégalité et cette égalité qu'on retrouve tous devant le Seigneur. Et je trouvais que c'était bien, dans un culte d'offrande spéciale, une fois de pouvoir mettre en évidence là, et je te remercie Anne-Sophie pour ton intuition, parce que c'est extrêmement clair ce lien qu'il y a entre ces moments-là et qui nous encourage clairement au partage. Prendre la scène, c'est comme un signe et une réalité du partage qui doit prévaloir dans la communauté chrétienne. Je la relis parce que je la trouve assez bien, cette phrase. Prendre la scène, c'est comme un signe et une réalité du partage qui doit prévaloir dans la communauté chrétienne. Alors, sans mettre la pression financière, parce que c'est toujours délicat là-dessus, je pense que c'est important de rappeler, il me semble, l'enseignement du Nouveau Testament sur cette question du partage des richesses matérielles. C'est une question qui ne peut, et puis là je reprends un peu les termes de Paul, que s'examiner de manière individuelle, d'une certaine façon. On le vit en communauté, mais j'aime bien ce pendant qu'il fait Paul, qui parle de l'expression communautaire de la foi qui encourage au partage, ça c'est la prédication. Mais ensuite, je ne sais pas si vous avez vu l'application pratique, ce que ça donne. C'est que chacun s'examine soi-même. Il n'y a pas un qui va aller dire à l'autre, dis donc, ce que tu as partagé, là, tu penses que c'est suffisant, tu penses que ce n'est pas suffisant. Tu penses que tu ne pourrais pas en faire un petit peu plus, ou bien, même s'il y a, par exemple, les apôtres qui pourraient être une certaine pression. Paul, il me semble, évite ce côté désagréable, et puis qui doit être dénoncé, d'une forme d'abus où on met la pression pour qu'on partage les biens matériels. Il prêche, il donne ce qu'il pense être sa compréhension du juste partage des choses en se basant sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix, mais ensuite, en termes d'application pratique, il laisse l'Esprit Saint agir dans chacune et chacun des cœurs pour que chacun puisse rester en liberté, surtout par rapport à cette question. Et je trouve très intéressant cette sagesse qui nous est proposée par l'apôtre et que nous voulons vivre aussi, nous, en communauté. Et puis ensuite, on se rend compte que dans son développement de sa lettre aux Corinthiens, ensuite il parle du corps, de la réalité du corps, que la communauté forme qu'un seul corps, puis qu'il y a différentes parties, puis que toutes participent au bien-être du corps. Et ensuite, il a ce fameux chapitre sur l'amour qui est le partage pour moi par excellence. Donc on voit vraiment une continuité qui commence avec cette instruction sur la Sainte Cène, ensuite qui se développe avec quelle est la réalité du corps, c'est-à-dire qu'on participe tous, qu'on partage tous la même réalité d'un même corps, pour terminer sur ce chapitre 13 que je vous encourage toutes et tous à relire, sur la réalité de l'amour dans nos vies personnelles, mais aussi communautaires dans la vie de l'Église. Donc là, on voit vraiment que l'unité égale partage. C'est toujours un peu des équations qui sont simplistes, mais il y a quand même quelque chose de très fort, que l'unité signifie qu'il y a une réalité du partage vivante dans une communauté. Et puis, j'ai fait partie d'un petit groupe de préparation pour un peu revisiter le système de financement de notre fédération. Et puis, on peut remarquer assez facilement que quand il y a des communautés où il y a des bisbilles, des problèmes d'unité, il y aura des répercussions presque inévitablement sur la santé financière de ces communautés. Donc, ce que dit l'apôtre, c'est une réalité que l'on observe encore maintenant. Donc, en prenant soin de l'unité de l'Église, puis je crois que c'est un des mandats principaux du Conseil, c'est aussi une manière de favoriser l'émergence d'une mentalité et d'une réalité de partage. Unité égale partage. Et si on y réfléchit un peu, c'est un paradoxe évident. Parce que normalement, quand on partage, on divise un peu les choses. Normalement, quand on partage, on donne un peu à l'un, un peu à l'autre. Et en fait, là, c'est de se dire qu'en partageant, on favorise une unité, parce qu'on donne une partie de soi pour un ensemble plus grand. Une communauté agrégée, c'est le contraire de désagrégée, favorise le partage qui se vit le plus naturellement possible. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil, mais il me semble que toute la société fonctionne comme ça. Quand même pas mal, Gianfranco. Par exemple, si on prend l'exemple des impôts, c'est une forme de partage. Visiblement, ça suscite des réactions diverses. Mais toutes et tous qui sommes là, parce qu'on m'a dit qu'il y a deux choses qu'on est sûr de vivre une fois dans sa vie, c'est de mourir et de payer ses impôts, on est concerné par cela. On est concerné par cette forme de partage. Mais peut-être que nos réactions contrastées viennent du fait que l'outil utilisé, c'est-à-dire l'impôt, soit diversement apprécié par nous. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on fait généralement dans les impôts ? Je trouve qu'on est plutôt dans une logique de calcul. Généralement, on est assez au courant des déductions qu'on peut faire, d'une manière d'avoir peut-être même des spécialistes. On a un copain qui nous aide à remplir notre déclaration d'impôt. Comme ça, on peut plus baisser ce qu'on doit donner à l'État. Et puis, il y a plusieurs choses qui se greffent là-dessus. En tout cas, les discussions sont plutôt assez critiques quand on est autour de la table. C'est vrai que c'est assez exigeant comme discussion. Moi, je nous encourage à payer de bon cœur nos impôts. Voilà, c'est dit. Même quand il y a des municipalités qui ont certains dysfonctionnements qui peuvent un peu altérer notre motivation. Ça, c'est dit aussi. Quel est l'outil que la Bible propose pour ça ? Donc, quand on a l'État, lui, propose des impôts. L'outil que la Bible propose, c'est le don ou l'offrande. Et vous pensez bien, c'est une autre catégorie d'outils. On est dans d'autres catégories de réflexion et de pensée. L'outil biblique du partage peut notamment se comprendre à travers la Sainte Cène, qui met au centre une radicale insuffisance, la nôtre, face à un don tout aussi radical, la vie du Fils de Dieu. On est dans une autre catégorie. On est autrement impactés que par des calculs de déduction plus ou moins efficaces. Et puis je vais même un peu plus loin parce qu'on a un autre outil qui est tout aussi biblique, c'est l'outil de la dîme. Puis je me suis dit que j'allais une fois en parler. Et puis cet outil, dans sa compréhension traditionnelle, c'est de se dire qu'on met de côté 10% de ses revenus pour les donner à l'Église ou à l'œuvre du Seigneur de manière plus large. Et puis vous voyez bien l'écueil en prenant l'exemple des impôts avec ce côté de 10%. Il a quelque chose de biblique parce que c'est de donner ses prémices pour Dieu. Mais on peut aussi, assez facilement, tomber dans l'écueil du calcul, même avec la dîme. Et c'est simplement ça que je vais dire, parce que le but plus profond, c'est de se dire on donne parce que le Seigneur s'est donné et parce qu'on croit à ce partage communautaire, parce que ce don, il est pour tous et toutes au sein de la communauté. Donc, faisons juste attention, parce que je ne vais pas être contre ce 10%, je pense qu'il a quelque chose de juste, parce que c'est une part significative de nos revenus qui est, pour moi, dans cette même compréhension des prémices, on donne finalement la meilleure partie de la récolte, mais ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de nos phases de vie. Ce n'est pas une idée d'avoir un calcul là-derrière. Comprenez-moi bien, c'est ça que je veux mettre en évidence. On peut aussi tomber dans cet écueil-là, même avec un enseignement biblique sur la dîme. La base plus profonde, c'est de dire, on donne peut-être des fois au-delà, peut-être des fois moins, mais on a cet élan radical parce qu'on comprend l'œuvre que Jésus a fait à la croix comme étant un don, une offrande même de sa vie, et parce qu'on comprend aussi cet enseignement des premiers apôtres et de la première communauté chrétienne où le partage des richesses devait être une réalité qui permettait de prendre ensemble, une manière communautaire, le partage du pain et du vin. Et ça, c'est que l'action du Saint-Esprit dans nos corps et dans nos cœurs qui peut le faire. Tout dans l'enseignement du Nouveau Testament, et particulièrement dans ce fameux bout des Actes des Apôtres, cette description de la première communauté, on voit l'action de l'Esprit qui est là pour transformer nos cœurs. Je reviens au début de ma prédication où le partage, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose de naturel. Le partage de nos richesses, le partage de nos biens matériels, notre argent, ce n'est pas plus quelque chose d'inné que le partage de la trottinette entre un frère et une sœur. Ça reste une action décisive du Saint-Esprit dans nos cœurs. Si on le décrit, par exemple, dans un repas de famille avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, ils vont faire des yeux assez gros en disant « Mais comment ça se fait que tu peux donner autant ?» Je pense qu'il y a une conviction personnelle, il y a un choix qu'on peut faire. Mais ce choix, il est éclairé par l'action de l'Esprit dans nos vies. Alors nous, dans tout ça, j'ai pris une image qui est assez d'actualité, puisque c'est l'image sur Facebook par rapport à l'article, je ne sais pas si vous l'avez vu, de la côte qui a été fait par rapport à notre distribution alimentaire. J'ai déjà simplement envie de nous remercier ou de vous remercier par rapport à cette réalité que l'on vit déjà dans notre communauté. On est vraiment sur ce chemin où on pratique le partage depuis plusieurs générations. On le sent et ça fait du bien de le sentir. Et j'aimerais simplement nous remercier, vous remercier pour cet effort qui est déjà là. Ce n'est pas un truc qu'on doit vraiment mettre en place, c'est quelque chose qui est déjà là, mais je pense que c'est bien de pouvoir le retravailler, le rethématiser au moins une fois par année dans le cadre de ce culte d'offrande spéciale. Et là, je mets en évidence cette distribution alimentaire parce que cette semaine, au Conseil, on était confronté à une question tout à fait pratique sur cette réalité du partage. Parce que plusieurs nous ont dit, j'arrive pas forcément à y penser, à amener, parce qu'on a proposé de pouvoir amener des aliments, ce qu'on a dit sec, des pâtes, du riz, enfin différentes choses comme ça, pour pouvoir les distribuer à la distribution alimentaire, parce qu'on reçoit que du frais le mercredi et le jeudi. Et puis plusieurs nous ont dit, mais j'y pense pas forcément le dimanche matin à porter mon kilo de pâtes ou mon kilo de riz. Est-ce que je peux donner de l'argent? Et puis, comme ça, vous pouvez aller acheter des pâtes ou du riz pour permettre la distribution alimentaire. J'ai trouvé que c'était une excellente question, un conseil. C'est dit, on fait quoi? On met le Twint sur la caisse, on met une petite caisse à part. Et puis on s'est dit, non, on va continuer ce qui nous semble être un peu la tradition de la frate dans cette église. C'est qu'on va mutualiser nos forces, nos revenus, nos ressources, et puis on va prélever simplement, pour débuter, 50 francs par semaine, vous l'avez vu dans le Frat News, pour que quelqu'un aille acheter, et ces 50 francs proviennent de ce qu'on appelle un fonds social, qui est actif dans notre communauté depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on prend chaque semaine 50 francs pour aller acheter du riz, des pâtes et autre chose pour permettre la distribution alimentaire. Et je trouve ça très beau de l'illustrer que même pour des éléments tout à fait concrets et pratiques, en tant que communauté, finalement, en partageant aussi cela, on peut partager plus loin et puis on le fait ensemble. On ne le fait pas chacun dans son coin, on le fait ensemble, on décide de tout mettre dans une caisse commune et à partir de cette caisse commune, en communauté, on décide que ben, c'est bien de pouvoir donner à ces différents endroits. Et je pense que c'est aussi un signe de santé lorsque, à travers le partage, on peut penser aussi, et peut-être même des fois en priorité, aux besoins qui sont à l'extérieur de la vie communautaire. Alors pour moi, c'est un encouragement ce matin que j'aimerais nous laisser aussi dans la phase pratique qu'on va avoir après, de continuer sur cette voie-là, continuer cette voie-là qui, moi, me touche beaucoup, où c'est une réalité que nous désirons partager, que nous désirons vivre tous ensemble. Alors simplement, j'ai envie de nous dire, continuons comme ça et que le Seigneur continue aussi de nous inspirer. Amen.